Nous te louons, Père, pour cette bonne œuvre que tu as commencée en nous tous. Tu l'as commencée, tu la rendras parfaite pour ton jour. Seigneur, nous te croyons. Seigneur, profite aussi de cette conférence pour œuvrer dans nos cœurs, pour les orienter sur ton but. Louez le Seigneur pour cette nouvelle conférence. C'est une nouvelle opportunité de nous ouvrir au Seigneur. À l'œuvre que le Seigneur fait en nous. La parole dit que c'est une bonne œuvre. Dieu, il est en train de faire une bonne œuvre en chacun d'entre nous et il la rendra parfaite. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle le fait que Dieu va rendre son œuvre parfaite en nous? C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Souvent, les croyants pensent que l'Évangile, c'est pour être sauvé de la perdition éternelle. Ils pensent que c'est l'Évangile pour les non-croyants. Mais non, il y a aussi un Évangile pour nous. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu rendra son œuvre en nous parfaite. C'est un message très important que nous devons accepter par la foi pour également vivre dans cette réalité. Nous allons avoir des partages au sujet de l'Épître aux Philippiens que nous allons parcourir pendant la conférence, mais en même temps, nous avons un fardeau pour cet Évangile. Le Seigneur, il a vraiment un message merveilleux pour nous et pour tous les humains. Paul, il était heureux du fait que les Philippiens avaient un partage, des partages à l'Évangile dès le premier jour. Et avec lui, il prenait part à la défense et à la confirmation de l'Évangile, car il faut défendre l'Évangile puisque Satan s'attaque à cette bonne nouvelle par tous les moyens. Il essaie de nous empêcher de parler l'Évangile, d'y croire partout, par tous les moyens. Il essaie de frustrer, de décourager les personnes d'accepter cette bonne nouvelle. Dans Philippiens, nous voyons par contre comment Paul a consacré toute sa vie à l'Évangile. Une fois qu'il avait compris ce que Dieu voulait faire, il s'est entièrement consacré à cela. Il n'était pas très grave pour lui d'être en prison, même de mourir. Il a dit pourvu que tout contribue pour propager l'Évangile, a dit, je suis bien. En ce qui me concerne, tout était pour défendre et confirmer l'Évangile, même son emprisonnement en Christ a contribué au progrès de l'Évangile. Le centre de cet Évangile, c'est bien Christ, comment nous allons bien voir pendant les jours qui viennent. Il ne s'agit pas d'un grand nombre de points, mais tout est compris, inclus dans cette personne. Il y a aussi des passages qui réfèrent à l'Évangile de son Fils dans l'Épître aux Romains. Dans Christ, Dieu nous a tout donné. L'Évangile comprend tout tout ce qu'il faut pour rétablir l'être humain pour le plan de Dieu. Dieu, il n'a pas seulement préparé un salut pour éviter la perdition éternelle des humains. Non, Dieu, il a un plan. Il poursuit le plan qu'il a formé dès le début lorsqu'il a créé l'homme. Et il veut nous ramener dans ce même plan. Lui, il a trouvé un moyen de rétablir l'être humain qui était si éloigné de son plan. Ce soir, je vais faire un petit dessin pour illustrer comment l'Évangile peut nous rétablir, nous restaurer. C'est un Évangile destiné à tous les êtres humains. Donc, on va commencer par tous les humains. Tous commencent pareil au début. Tout au bas, tout en bas. Lisons à ce sujet Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà la condition dans laquelle tout humain commence. Tous les humains qui ne sont pas sauvés sont morts par les offenses et les péchés. Nous connaissons bien les trois cercles et je vais m'en servir encore une fois ce soir pour illustrer comment le Seigneur œuvre pour nous rétablir, restaurer. L'être humain, il a la chair du péché. Le corps qui en fait a été merveilleusement créé s'est transformé pour devenir la chair. Et son âme est devenue le moi. Elle a une vie indépendante de Dieu, à part de Dieu. Après la chute, l'homme est devenu comme l'un des nôtres, connaissant ce qui est bien et ce qui est mauvais, c'est-à-dire il n'était plus dépendant de Dieu. Il a décidé pour lui-même ce qui était bien, ce qui était mauvais, sans faire attention au jugement de Dieu. Et l'esprit, par conséquent, était mort. Ce même jour où il a mangé de cet arbre, comme Dieu lui avait dit, tu mourras. Et ce qui est mort ce jour-ci, c'est son esprit. C'est pour ça Paul dit dans Éphésiens 2, nous étions morts par les offenses et les péchés. Et voilà, c'était la condition de tous les humains. Maintenant, il faut de bonnes nouvelles, car la fin de cette condition, le résultat final, c'est la mort éternelle.
Wenn sich an diesem Zustand nichts ändert, dann bedeutet ist das Urteil.
C'est-à-dire, si cette condition ne change pas, le jugement de Dieu portera sur la mort éternelle, le lac de feu. Ne faut-il pas une bonne nouvelle pour tous les humains? Ne faut-il pas leur annoncer qu'il y a une issue pour sortir de cette condition? Je suis convaincu que c'est une responsabilité que nous avons. Et La possibilité de sortir de la condition de la mort, c'est la nouvelle naissance. Nous connaissons. Nous avons la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Ce qui se fait grâce à la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, nous recevons la vie éternelle de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Oh, le tableau est trop petit. La nouvelle naissance se passe dans notre esprit. C'est-à-dire la vie éternelle de Dieu y rentre.
Genau, das hier, wer den Vers dazu haben möchte.
Le verset correspondant, c'est Jean 3 au verset 6. Ce qui est né de nouveau, c'est l'Esprit. Il faut naître de nouveau. Ce qui est né de l'Esprit, c'est Esprit. C'est-à-dire la nouvelle naissance se passe dans notre esprit. La condition de la mort est terminée, nous sommes ramenés à la vie. Et nous sommes vivants pour Dieu, et c'est à juste titre que nous pouvons dire que nous sommes ses enfants. Mais sachons également que dans le reste de notre être, il n'y a pas encore beaucoup de changements. Il y a toujours la chair, et on a toujours le moi. Donc, ça ne peut pas être la fin. Si c'était tout, l'œuvre de salut de Dieu ne serait pas complète, parce que Dieu ne peut pas se rendre un avec une telle personne. Donc, le rétablissement, la restauration doit se poursuivre. Et c'est cela ce qui est qualifié de salut de l'âme dans les Écritures.
Ah
non, c'est pas aussi vite, aussi rapide. Il faut une flèche un peu moins directe, parce que ça prend toute notre vie, tout au long de notre vie. 1 Pierre
1:9
parle de cela, du but de notre foi, c'est le salut de l'âme. Pour que le Seigneur puisse nous utiliser dans son plan, nous avons besoin de ce salut. Et Paul lui aussi, dans Philippiens, il parle assez souvent de salut, et chaque fois qu'il fait référence au salut, il se réfère au salut de l'âme, puisqu'il s'adresse aux Philippiens qui étaient des croyants. Parfois, je dis à des croyants que j'ai besoin d'être sauvé, ils ne me comprennent pas, ils me disent, mais comment toi tu es déjà sauvé? Pourquoi tu dis que tu as besoin d'être sauvé? Mais y compris Paul dans Philippiens 1, Il dit qu'il est convaincu, qu'il est persuadé que ceci contribuera à son salut. Son salut, c'est de ne pas être exposé à la honte en rien, mais que Christ soit manifesté dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Son désir, c'était que son âme ne ne retourne pas en arrière, qu'il continue dans le salut, que le moi qui est parfois veut éviter le salut, qu'il soit capable de mettre son moi dans la mort et de vivre Christ. C'est comme ça qu'il a compris ce salut.
Also, hier ist der Geist und hier ist eine neue Seele.
C'est l'esprit et voilà une âme renouvelée.
Es gibt immer noch das Fleisch.
Pourtant, la chair est toujours présente. Tant que nous vivons dans ce corps, la chair sera toujours présente. Et c'est à partir de l'esprit que le renouvellement se propage. Et si nous collaborons à cela, il y aura une récompense dans l'âge à venir. Et Paul parle de cela, du prix de victoire, le prix de Dieu, du grand appel de Dieu. Et tout le parcours est un combat. Malheureusement, l'ennemi est également présent en essayant de voler notre récompense et de nous frustrer sur ce chemin. Il faut donc être préparé au combat. Et dans un combat, il faut une décision claire et ferme. Il ne faut pas se battre à demi-cœur. Si on se bat à demi-cœur, on a déjà perdu. Ça se voit pendant tous les matchs, tous les championnats. Pour ceux qui s'intéressent au foot, lorsque l'équipe allemande avait gagné le mondial en 2014, 4 ans plus tard, cette volonté absolue de gagner n'était plus présente et ils s'étaient éliminés très vite. Moi, je regarde pas ces matchs, mais si on voit ça, on se rend compte qu'ils le veulent absolument. Ils se battent avec toutes leurs énergies. Mais vous voyez le prix pour lequel nous battons. Il faut voir ce prix. Une fois qu'on l'a vu, on va tout investir pour se battre. On ne va pas se laisser décourager et on recevra une merveilleuse récompense. Et cette récompense, c'est une fête de mariage. Et en même temps, c'est un règne. Et tout ça se passe pendant le millénium. Et à chaque fois, il y a une récompense, il y a aussi une punition.
Ja, Herr Jesus, wenn wir dazu lesen, zweiter Korinther 5, Vers 10.
Lisons 2 Corinthiens 5, verset 10.
Denn wir müssen alle offenbar werden, oder Vers 9 und 10 vielleicht.
Und le 9 et le 10 plutôt. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans le corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça, c'est un seul exemple. Et de nouveau, Paul s'adresse à des croyants. Il s'adresse aux frères et sœurs. Nous aussi, nous devons passer devant le tribunal de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, il en parle dans certaines paraboles et en se référant à la punition, il parle des ténèbres extérieures. À ne pas confondre avec la mort éternelle. Beaucoup de croyants confondent les deux. Cependant, le Seigneur, tout de suite après la chute de l'homme, le Seigneur montre bien que une fois que nous avons reçu cette vie, nous ne la perdrons plus. Après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, le Seigneur a dû bloquer la route vers l'arbre de vie. Parce qu'il a dit, si cet homme va manger de l'arbre de vie, il vivra éternellement. C'est-à-dire, une fois que nous avons reçu cette vie, elle ne repartira plus. Le Seigneur même ne peut plus nous l'ôter parce que c'est sa vie éternelle. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Une fois qu'on est enfant de Dieu, on reste enfant de Dieu. Mais les enfants ont besoin d'un traitement, d'une éducation, et si tout ça ne porte pas de fruits, il faut aussi les punir. On fait pareil avec nos enfants. Notre Dieu, il est pareil. Voyons dans Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous a sauvés, elle nous enseigne en même temps. Tout ce processus se passe en grâce, car aujourd'hui, c'est l'époque de la grâce. Et tout ce traitement, en commençant par le salut et la transformation de l'âme, est fait par le Seigneur en grâce. On pense parfois que c'est un processus différent parce qu'on trouve également des versets dans Philippiens 2. Que nous devons œuvrer pour accomplir notre propre salut avec peur et tremblement. On peut penser que c'est par nos œuvres, mais non, du tout, c'est toujours par la grâce. C'est pas nos œuvres, c'est son œuvre en nous. C'est toujours l'œuvre du Seigneur. Il faut y contribuer, en fait, mais celui qui l'accomplit, c'est le Seigneur. Et en fait, ça continue tout pareil comme ça a commencé. Même pour être sauvé, il faut s'ouvrir, il faut accepter l'Évangile par la foi. Et c'est pareil pour la suite. Il faut dire « Amen Seigneur, œuvre en moi ». C'est une démarche, comme se laisser tomber par la foi, sans savoir quel en sera le résultat. C'est comme la première fois quand on a cru, c'est pareil pour le salut de l'âme. Au début, ça, c'est inconnu, c'est neuf. Il faut faire confiance au Seigneur en disant, Seigneur, fais cette œuvre en moi. Je veux l'expérimenter. Ce que nous avons gagné, ce que le Seigneur a déjà œuvré dans notre âme, là-dedans, là-dessus, nous connaissons déjà le Seigneur. Mais le Seigneur veut aller plus loin. Paul se trouve sur ce chemin, sans reposer. Il voulait toujours aller plus loin.
Gibt es oft Dinge neu zu erkennen.
il faut découvrir des choses, découvrir le Seigneur, être courageux dans la foi en disant, Seigneur, je voudrais te connaître. Tous les déficits que nous remarquons en nous, les points où le Seigneur n'est pas encore entré, tout ça, c'est des domaines dans lesquels nous pouvons mieux connaître le Seigneur. C'est pas pour nous décourager, pour penser, voilà, je suis arrêté à ce point-là. Mais non, on peut se rendre compte, il y a plus de possibilités à découvrir le Seigneur, plus de possibilités à être rempli dans mon âme. Je ne suis pas encore arrivé au but. Et Paul, il a cette même attitude. Dans Philippiens 3, Paul, il a cette même attitude. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Il s'adresse aux hommes faits. Il y a un autre passage dans Corinthiens où il s'adresse aux Corinthiens comme à de jeunes enfants qui n'avaient pas encore appris beaucoup, qui vivaient encore selon la manière des hommes dans leur moi. Ils ne pouvaient pas leur dire qu'ils étaient des hommes faits. Mais louez le Seigneur, à Philippe, il y avait des frères et sœurs qui étaient déjà des hommes faits, qui avaient appris à donner la place à l'Esprit, à mettre leur moi dans la mort, et qui vivaient déjà par Christ, comme lui aussi. Mais il les exhorte d'avoir la même pensée, d'oublier ce qui est en arrière et de poursuivre les choses en avant. Et je crois aussi dans l'Église, le Seigneur a déjà gagné quelque chose en beaucoup d'entre nous. Nous ne sommes pas tous de jeunes enfants en Christ. Beaucoup ont déjà appris la marche par l'Esprit qui sont dans le processus du salut de l'âme. Mais à nous, la parole nous dit d'avoir la même pensée. Poursuivez Christ chaque jour. Ne pensez pas d'avoir déjà atteint au but, mais poursuivez toujours le but. Il encourage d'oublier les choses en arrière, soit les bonnes choses que nous avons déjà vécues, et parfois on a le désir de retourner en arrière, ou bien les expériences négatives, les déceptions, on peut tout oublier. Poursuis le Seigneur maintenant, le but est en avant. Et le Seigneur nous donne la possibilité de le gagner davantage. Tout ça ne doit pas nous frustrer, peu importe tout ce que nous avons vécu. Et moi, j'ai l'impression que Paul, il veut écrire la même chose dans le cœur des Philippiens.
Vielleicht noch ein Punkt dazu. Lass uns noch Römer Brief lesen.
Encore un autre point. Lisons Romains chapitre 8.
Ab Vers 10 bis Vers 13.
Verset 10 à 13. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ces versets nous montrent bien la décision que nous devons toujours prendre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La fin, ce sera la mort. Pas la mort éternelle, mais cette mort-là. Mais si nous tuons par l'esprit les œuvres, les actions du corps, nous vivrons. Nous nous concentrons à quoi? À l'esprit ou à la chair? Et en fonction, je suis sur le parcours là ou sur celui-ci? Et il faut prendre une décision chaque jour. Mais personne d'entre nous n'est redevable à la chair pour vivre selon la chair. Et même si elle paraît si forte parfois et on peut penser impossible de vaincre cela. Mais la parole dit, je ne suis pas redevable à la chair, je ne suis pas obligé de vivre selon la chair. Je peux dire plutôt, Seigneur, fais ton œuvre. Le problème, c'est que souvent, moi, j'essaie de vaincre la chose. Le problème, c'est souvent que moi, j'essaie moi-même, par moi-même, de vaincre la chair. Et ça fonctionne pas, je me retrouve dans Romains 7. Cependant, si je me tourne vers l'esprit et que je m'ouvre à l'esprit en disant, Seigneur, œuvre en moi, tout ça, ça dépend de notre foi. De nouveau, c'est par la foi. Alors, cet esprit, il pourra même rendre mon corps mortel à la vie. Mon corps qui est fatigué, paresseux, même cette chair peut être rendue à la vie pour servir le Seigneur. L'esprit en est capable. Moi, je l'ai souvent expérimenté. Nous tous, nous l'avons déjà expérimenté. Donc, il faut jamais capituler devant la chair. Disons plutôt, Seigneur, ton esprit est capable et fort. Je veux voir comment ton esprit peut me libérer et me rétablir pour ton dessein. J'efface ici pour compléter. Et puis au final, il y a la nouvelle Jérusalem, dans l'éternité. Dans Apocalypse, on voit la description. Ça a l'air d'être un peu abstrait, mais ça veut dire que Dieu est uni avec les humains. Cette ville a la gloire de Dieu, rayonne de la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a rendus un avec lui-même. Il est clair que si nous ne laissons pas rentrer le Seigneur dans notre âme, que nous ne nous entraînons pas pour être un avec lui, on ne pourra pas simplement faire un bond pour se retrouver là-dedans. Le Seigneur ne peut pas construire sa nouvelle Jérusalem avec des personnes non renouvelées qui n'ont pas pris à le vivre, lui. Donc, ils auront besoin de cette période, de ce laps de temps pour amener les enfants, ces enfants qui n'étaient pas obéissants, les amener au but, au, à la fin, nous y serons tous, ça c'est sûr. J'ai bien aimé de voir que Paul, il avait cette certitude au sujet des Philippiens qu'ils vont être complété ici sans avoir passé par l'époque de la punition. Ce n'est pas le désir du Seigneur non plus. Il voudrait que nous y soyons tous. Ça, c'est punitions, ce n'est pas son but. C'est seulement lorsque ça devient indispensable. L'Évangile, c'est de nous aider mutuellement, d'y arriver. Notre conférence est aussi une communion dans l'Évangile, un encouragement mutuel. Que personne ne parte après cette conférence en se disant, bon, pour moi, ce sera le parcours d'en bas. Alors, on n'a pas compris la bonne nouvelle du Seigneur. Le Seigneur nous annonce, à nous tous, que ce chemin est prévu pour vous. Dans le verset 6, Paul, il dit qu'il est convaincu même. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et puis, ce qu'il dit, c'est remarquable. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Impressionnant. Facile à dire, bon, d'accord, que le Seigneur te bénit, tout sera bien, et puis j'oublie. C'est sympa, on peut l'écrire, mais Paul, lui, il était conscient de cette affirmation, c'était bien fort. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Et au début, il dit qu'il rend grâce pour eux en tout temps. Et moi, j'ai compris que le ministère de la prière est un ministère, un service très important. À l'époque, il n'avait pas la possibilité de leur rendre visite. Il disposait pas de téléphone ni de courriel. Même pour écrire des lettres, c'était difficile pour lui. Mais son ministère, son service, c'était dans la prière pour toutes les églises. Il a passé beaucoup de temps dans la prière. Et la prière est efficace. Pendant cette année, j'ai été encouragée de voir combien de prières le Seigneur a exaucées. Les prières de l'Église, prières personnelles, le Seigneur écoute nos prières. Ne pensons pas que c'est tout simplement un exercice, une pratique religieuse, mais chaque prière sérieuse arrive au Seigneur. Il exauce. Nous avons lu l'histoire de Samuel. À l'époque, la condition du peuple était terrible, mais ils se sont répandus, et dans leur combat contre les Philistins, ils étaient plus faibles, ils avaient peur. Ils disaient à Samuel de ne pas s'arrêter de prier pour eux. Et Samuel a crié au Seigneur. Le Seigneur a exaucé. Il a battu les Philistins. Il a envoyé une tonnerre terrible qui a donné peur aux Philistins. Et leur cœur est tombé en bas. Le Seigneur avait donné la victoire. Aucun ennemi ne pose un problème pour le Seigneur. L'ennemi sert uniquement pour que nous tournions vers lui, comme les Philistins pour le peuple. L'ennemi ne pose pas un problème. La question, c'est seulement, qu'en est-il de notre cœur? Est-ce que notre cœur est prêt d'avancer? Alors le Seigneur pourra compléter l'Église. Et il faut aussi prier les uns pour les autres. Le même ministère que le Seigneur fait pour nous, lisons dans Hébreux 7, 25, lisons tous ensemble par la foi.
Ja, daher kann auch aufs Völligste erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Denn lebt immer da,
Et 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est son ministère de sacrificateur. Le sacrificateur, il avait une pochette sur sa poitrine avec 12 pierres précieuses et le nom de tous les tribus d'Israël écrit dessus. Le sacrificateur a dû les porter sur son cœur et sur ses épaules. Le Seigneur est le véritable souverain, sacrificateur, intercédant pour tout son peuple. Il est capable de nous parfaire grâce à son intercession. Il cherche des êtres humains qui sont un avec lui. Chaque prière est précieuse parce que nous nous rendons un avec le sacerdoce du Seigneur.